Emballant comme la Prius hybride branchable. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
102.1 Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le pit stop avec Gravel, 7h45. Le point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Mon invité de ce soir, vous l'avez certainement entendu parler, vous l'avez certainement vu passer. Elle était journaliste pendant plus de 20 ans. Elle est auteure conférencière. Elle est aussi cofondatrice de l'organisme Équipe Jeunesse. Quand il s'agit de dossiers de DPJ, bien souvent, on fait appel à elle pour parler de ces sujets-là qui touchent la DPJ, parce que c'est une ex-enfant de la DPJ. J'ai le plaisir de recevoir ce soir Nancy Audet. Comment vas-tu?
Ça va bien, merci pour l'invitation.
Ben merci. Tu as été journaliste dans nos télés pendant combien d'années, Nancy?
Pendant presque une vingtaine d'années. Ça me rajeunit pas. Hein? Autant, j'ai commencé, moi, comme journaliste en Abitibi-Témiscamingue.
Ouais.
Il y a pas mal d'années, j'ose même pas vous le dire parce que vous allez dire « mon dos qu'elle est vieille ». Mais ça fait longtemps. Et après, j'ai été journaliste à TVA à Gatineau pour passer à l'Ouest, comme on dit, puis travailler à Radio-Canada à Ottawa et Toronto avant d'être rapatriée à Montréal où j'ai fait le reste de ma carrière, non seulement à Radio-Canada, mais aussi à TVA. Puis j'ai eu un passage à Québec. Je suis allée travailler à TVA comme journaliste à Québec et je travaillais à Salut Bonjour Week-end, donc dans la belle capitale nationale. J'ai adoré l'expérience à tous les niveaux. J'ai adoré travailler à Québec. J'y vais encore très souvent. Mais fait une vaste expérience. Puis quand j'ai décidé de quitter les salles des nouvelles, j'avais envie d'avoir un peu plus de liberté. Bien, je me suis mis à travailler en série documentaire. Puis bon, j'ai travaillé sur plusieurs beaux projets, des projets d'envergure, notamment un documentaire sur les expos qui vient de paraître sur Netflix. J'ai travaillé pendant un bon moment sur ce gros projet-là. J'aime encore mon métier, je suis encore passionnée par ça, mais j'ai plein d'autres passions, hein, comme on va en parler. Là,
Qu'est-ce qui t'avait amené en journalisme?
En fait, quand j'étais petite, j'étais une petite fille qui avait énormément de difficultés à l'école.
Ah ouais.
Je passais sur la fesse la plupart du temps. J'avais de graves, d'importantes difficultés d'apprentissage. On m'a même mis à la porte de l'école en deuxième année. En deuxième année, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire encore. Donc, j'ai un parcours scolaire difficile. Mais tous les jours, avec mon grand-père paternel, je lisais le journal. Mon grand-père avait un handicap physique qui rendait ses déplacements difficiles. Fait qu'il me demandait tous les jours d'aller chercher son journal au dépanneur. J'aimais ça parce qu'après, je m'assoyais avec lui. Non seulement ça me permettait de pratiquer ma lecture, mais c'était un moment avec lui. C'est comme ça, je pense, que j'ai développé par la bande une passion pour l'actualité. Et on passait souvent au salon après, on regardait les nouvelles à la télé. Puis un jour, j'étais toute petite, j'étais vraiment pas grande. Là. Je devais avoir, je sais pas, 8-9 ans. Je lui ai dit un jour, grand-papa, c'est moi qui vais te lire les nouvelles à la télé. Et puis, mon grand-père m'a regardé avec un beau regard de doute. Parce qu'il se disait, bon, ma petite fille qui a tant de difficultés à l'école puis qui passe son temps à se battre dans le cours puis qui est toujours en punition dans les escaliers, je pense pas qu'elle va devenir journaliste puis qu'elle va me lire les nouvelles à la télé. Je n'en veux pas d'avoir eu de sérieux doutes. Mais sa petite fille, elle avait aussi un bon caractère de cochon. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais pour le meilleur et pour le pire. Et puis, après un parcours scolaire très difficile, j'ai décroché pendant plusieurs années. Je suis retournée aux études. Moi, j'avais presque 24 ans. Et puis, j'avais toujours gardé ce rêve-là qui a grandi donc avec grand-papa Audet. Et puis, c'est ce qui m'a amenée un jour à devenir journaliste. contre toute attente.
Contre
j'ai défié les statistiques. Hein?
Contre vents et marées. Puis est-ce que ton grand-père a eu la chance de te voir à la télé?
Oui, grand-papa m'a vu dans mes premières années. D'ailleurs, quand j'ai commencé comme journaliste en Abitibi-Témiscamingue, mon doux, c'est dur les premières années. On va pas se le cacher. Hein, mes premiers directs, là, c'était pas fort, mais il était tellement fier de moi. Là, c'est fou. Puis après ça, ben, je suis partie travailler à Radio-Canada, à TVA, Radio-Canada, Ottawa. Puis là, il m'a vu plus au bulletin national. Hein. Même quand j'étais journaliste à Toronto, là-bas, je couvrais des grosses histoires. Puis chaque soir, mon grand-père s'assoyait dans le salon avec les autres personnes âgées, hein, dans sa RPA. Là. Puis il attendait que je passe. Là. Puis tu sais, quand on est journaliste dans le bulletin de nouvelles, on peut passer le premier, mais on peut aussi passer le cinquième, le sixième. Mais il attendait patiemment. Puis à chaque fois qu'il me voyait, il disait « ça, c'est ma petite fille, ça ». Puis, je vais essayer de ne pas être émue. Puis les personnes âgées, des fois, lui disaient « on commence à le savoir, le monsieur Audet, que c'est votre petite fille. »
Puis est-ce que c'était ton...
bien, bien fier de ça.
Est-ce que c'était ton modèle masculin à toi, ça, grand-papa Audet?
Bien, grand-papa Audet, ça a été l'endroit où je me sentais en sécurité.
Ouais.
Où je pouvais aller me réfugier quand ça brassait trop à la maison, après avoir mangé des coups. Où j'allais m'asseoir chez lui, je pleurais un bon coup. Puis lui, sa méthode, grand-papa, c'était de me protéger, c'était que je passe le plus de temps possible avec lui. Il m'amenait souvent faire de la motoneige, par exemple. Mais il vient d'une époque où tu serres les dents. Tu serres les dents, ça va finir par passer. Puis un jour, tu vas devenir un adulte, puis tu vas oublier tout ça, puis tu vas faire ta vie. T'sais, c'était une autre génération. Hein?
Ouais.
C'était mon modèle, c'était un homme que j'admirais beaucoup, qui est décédé en 2006. Mais malgré son handicap, c'était un homme qui était très fonceur, c'était un homme profondément bon. J'ai eu beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie, malgré tout ce qui est arrivé dans ma jeunesse. Là, j'étais chanceuse de pouvoir compter sur lui.
La DPJ est rentrée quand dans la vie de Nancy Audet?
Pour la première fois, la DPJ est entrée quand j'avais presque 9 ans. Il y a eu un signalement anonyme. Il y a une personne qui s'inquiétait pour moi, visiblement pour ma sécurité. Et on a été rencontrés dans les bureaux de la DPJ à ce moment-là. Ça faisait déjà plusieurs années que j'étais victime de maltraitance. Violence corporelle, violence psychologique aussi, agression sexuelle. Et puis, je ne sais pas c'est qui cette personne-là. Je n'ai jamais su. En tant que journaliste, j'ai cherché longtemps. J'avais envie de parler à cette personne-là. J'avais envie aussi surtout de la remercier. Mais je n'ai pas réussi à la trouver. Reste que son appel, son inquiétude a fait en sorte qu'on a été convoqués dans les bureaux de la DPJ. On n'était que ma mère et moi à ce moment-là pour nous poser des questions. Hein. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'on pourrait envoyer peut-être un travailleur social pour vous aider à améliorer la relation et tout? Ou travailler sur les problèmes de comportement de l'enfant, travailler sur les problèmes aussi de gestion de la colère du parent, par exemple, lui donner des outils. Mais finalement, cette rencontre-là a été très, très courte. Ça a duré même pas quelques minutes. Moi, ma mère a s'élevé et elle leur a dit « Écoutez, moi, j'en veux plus de cet enfant-là, de toute façon. Donc, gardez-la, puis allez lui trouver une autre famille. » Puis elle est partie. Puis je me souviens, moi, je courais dans le corridor après elle, « Maman, maman », puis elle servirait de bord, puis elle m'a juste dit « Écoute, moi, je ne suis plus ta mère. Va-t'en dans le bureau, ils vont t'en trouver une autre. » Et puis, ça a été mon premier contact avec la direction de la protection de la jeunesse. Ils se sont retrouvés avec une petite fille dans le bureau qui était bien démunie, hein, bien déstabilisée. Tu es en perte de repère. Dans ton cœur d'enfant, tu réalises que t'as plus de famille. T'as plus de famille, tu ne reverras pas ta fratrie. Je me disais, je ne reverrai plus mon grand-père. Je ne verrai plus personne de mon village. Je ne verrai plus mon petit chien. C'est très violent pour un enfant de vivre ça, cet abandon-là dans un bureau de la DPJ. Et puis, j'ai eu un placement d'urgence en famille d'accueil à ce moment-là. Chez une femme qui s'appelle Rose-Aimée Vallée qui a accueilli des dizaines et des dizaines d'enfants de la direction de la protection de la jeunesse comme moi. Et puis, C'est ça. Ça a été mon premier contact avec cette institution.
Ce rejet-là a dû être épouvantable dans ta vie au moment où ça s'est passé, puis pour la suite des choses. Tu dois avoir eu des problèmes d'attachement, tu vas avoir des problèmes à faire confiance aux autres. Ça devait être ignoble comme enfant de subir ce genre de rejet-là de la part de la personne qui est supposée de la garder en sécurité le plus souvent. C'est notre mère.
C'est un tabou aussi, hein, parler de la violence des mamans, parce que la maman, elle protège, la maman lion, hein, la maman qui garde le fort, mais c'est un tabou dont il faut parler. Il y a des mères inadéquates, comme il y a des pères inadéquats, mais il y a des mères inadéquates qui sont violentes aussi, qui ont des problèmes de gestion de la colère, qui ont aussi des... Tu sais, c'est souvent le cycle, hein, de la violence qui se reproduit, là, le fameux cycle intergénérationnel. Il existe autant chez les femmes que chez les hommes. Moi, ma mère, elle a été prise dans ce cycle-là intergénérationnel. Elle a été victime de violences intenses dans son enfance. Elle n'avait pas les outils, donc, pour prendre soin de moi. Et donc, elle a juste répété ce qu'elle-même avait vécu. J'ai appris à le comprendre. C'est pas parce que tu le comprends que ça te blesse pas profondément. Tu sais, je te dirais que c'est une des plus grandes incompréhensions encore à ce jour, en 2026. Les séquelles laissées par l'abandon, par la maltraitance. On va juger beaucoup les enfants qui ont des problèmes de comportement sans jamais comprendre qu'est-ce qui provoque ces comportements-là. Mais si on ne va pas voir derrière, un enfant, là, ça n'est pas violent. Hein?
Non.
T'sais, il va souvent répéter ce qu'il voit à la maison ou il va se désorganiser à l'école parce que quand tu es en état d'hypervigilance tous les jours parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver quand tu vas rentrer à la maison. Est-ce qu'aujourd'hui, maman va me battre? Est-ce que maman va m'enfermer dehors pendant plusieurs heures sans me laisser entrer dans la maison? Est-ce que je vais manger aujourd'hui ou je vais passer la soirée encore enfermée dans ma chambre avec le crochet à l'extérieur? Mais c'est sûr que quand tu te présentes à l'école le lendemain, ben non, tu n'es pas un enfant modèle. Ben non, tu n'es pas un enfant qui est capable d'écouter ce que l'enseignant dit en avant. Oui, tu es violent avec tes collègues de classe dans la cour d'école. T'sais. Parce que le modèle que tu as, toi, à la maison, c'est ça. Tu es rempli de colère, de tristesse, de détresse. T'sais. C'est comme... Puis on n'a pas la maturité émotionnelle pour expliquer ce qu'on vit. Fait qu'on exprime notre détresse à travers nos comportements. Il faut avoir des humains qui sont qui comprennent, hein, ces comportements-là, ce qui se cache derrière, puis comment aller aider un enfant qui a ces problèmes de comportement-là. Parce que souvent, on est juste puni puis repuni. Fait qu'on est stigmatisé à la maison, on est stigmatisé à l'école, on a juste des échecs dans notre vie. On est un échec, en fait. On se sent comme un enfant défectueux, un enfant qui ne mérite pas l'amour de personne aussi. On se sent tellement pas bon. T'sais, moi, on me l'a tellement dit souvent que je t'aime pas bonne.
Mais c'était ma...
Si en plus à l'école...
Ouais. Mais... C'était ma question, Nancy Audet, parce que tu étais abandonnée directement dans les bureaux de la DPJ. Tu ne t'attendais pas à ça. Ta mère a décidé de quitter. Est-ce que tu t'es mis ça sur le dos pendant des années en disant « c'est à cause de moi si les gens m'ont abandonné? » C'est cruel quand on est un enfant de se mettre ça sur le dos alors que ça n'a aucun lien.
Quand un parent manque d'intégrité envers son enfant, l'enfant n'arrête pas d'aimer son parent. L'enfant arrête de s'aimer lui-même. Parce que dans le cœur de l'enfant, c'est de sa faute si son parent ne l'aime pas. Moi, là, j'étais comme... Elle ne m'aime pas parce que je ne suis pas une bonne enfant. Je n'ai pas des bons comportements. Je ne suis pas assez bonne à l'école. Je ne m'entends pas bien avec mon frère et ma soeur. Il fallait que c'était moi. Puis pendant des années et des années, j'ai pensé que la seule responsable de la maltraitance que j'ai vécue, c'était moi. C'était moi qui n'avais pas été une bonne enfant. Je détestais l'enfant que j'avais été à tous les niveaux. Et ça m'a pris des années et des années pour me rendre compte que cet enfant-là, c'était au contraire une bonne enfant. C'était une bonne petite fille. C'est une petite fille très courageuse qui n'a jamais baissé les bras malgré tout ce qu'elle a vécu, tout l'amour qu'elle n'a pas eu. Puis il a fallu que j'apprenne à l'aimer, cet enfant-là, puis l'aimer très fort pour être capable de me guérir. Puis c'est pour ça, quand j'ai écrit ma biographie, Plus jamais la honte, il y a une honte dans le cœur des enfants qui ont été abandonnés, qui ont été maltraités, qui est tellement profonde. On est honteux parce que c'est de notre faute ce qui nous est arrivé. Moi, je le dis aux jeunes que je croise, tu n'as aucune raison d'avoir honte. Ce n'est pas de ta faute. Tu étais un bon enfant. Tu méritais autant l'amour d'un adulte significatif que tous les autres enfants. Ce n'est pas de ta faute. Et chaque fois que je leur dis ça, c'est automatique, il y a énormément de larmes. Des larmes de soulagement. Tu penses que je mérite d'être aimée? Bien sûr que tu mérites d'être aimé. T'sais. Puis je vois là, des gens qui ne vont jamais réussir à passer cette étape-là. Puis ça me fait beaucoup de peine. Je la comprends, leur souffrance. Puis de là, le combat de Nancy Audet aujourd'hui, de sensibiliser les gens. Puis de dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'aimer. Parce que de voir des gens qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui continuent à se détester, à penser qu'ils ne méritaient pas l'amour de leurs parents, de sa mère, de son père. C'est des gens qui passent à côté de leur vie, souvent, qui ont de la difficulté à fonctionner normalement, que ce soit d'avoir des relations aussi amoureuses normales, d'avoir des relations aussi avec leur enfant. Des relations saines avec leur enfant, mais aussi dans leur milieu de travail. C'est pas facile. On n'a tellement pas confiance en nous. Ça impacte toute notre vie sur plusieurs années.
Ça prend des années à se rebâtir. Je veux savoir, pour ce qui est de la DPJ, est-ce que très rapidement, on vous offre de l'aide aux enfants qui sont abandonnés, qui sont laissés pour compte, qui sont maltraités par leurs parents? Non.
Non. Aucun. Moi, j'ai personne qui est venu me voir pendant mon placement qui m'a demandé qu'est-ce que je vivais à la maison. Personne n'est venu me demander est-ce que tu as subi des agressions sexuelles, c'était le cas. Moi, ma mère, elle m'amenait toujours chez un voisin qui faisait des choses qu'on ne devrait jamais faire à des enfants. Puis, en échange, elle partait, elle lui donnait quelques dollars. Elle partait avec ça, puis elle me laissait derrière. Puis, ces abus sexuels-là, qui ont duré quand même pendant 3 ans, ont laissé des traces vraiment sévère chez moi. Et la DPJ ne m'a jamais rencontrée pour me demander qu'est-ce qui se passait. On ne m'a pas offert aucun service pour me guérir. Puis ça, ça a eu des conséquences, je veux dire, dévastatrices dans ma vie d'adolescente, dans ma vie de femme. Je n'ai eu aucun service. Pas plus à l'adolescence quand j'ai été repris en charge par la DPJ. Je n'ai eu aucun service. Puis moi, je me suis toujours dit, bon, moi, ça, c'était quand même en 80, laisse-moi réfléchir, tu sais, 82, 84 à peu près. Puis j'ai toujours pensé que ça s'était amélioré. Voyons, c'est sûr, il y a une trentaine d'années. Mais quand tous les jeunes que je côtoie aujourd'hui, puis je leur demande qu'ils sont dans le système ou qu'ils sortent, il n'y a personne qui a eu de service. On ne donne pas de service à ces enfants-là pour les aider à guérir. Ben, quand ils sortent à 18 ans, vous ne pouvez pas vous imaginer comment ils sont blessés.
Mais ce serait...
La pente qu'ils ont à monter, ouais. Ces jeunes-là, c'est fou.
Ce serait tellement
parce qu'ils
ne reçoivent
pas de service.
Ouais, ce serait tellement important pour le système de travailler en amont avec les enfants, travailler avec eux très rapidement pour être sûr et certain de leur donner des outils qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir les aider, ces enfants-là, puis ils vont pouvoir s'aider, puis ils vont pouvoir embarquer dans le fameux processus. Là, de voir qu'on vous laisse pour compte en disant, ben, un moment donné, à 18 ans, il va sortir, puis il va découvrir la vie, ça donne des catastrophes parfois. Puis heureusement, tu sais, quelques années plus tard, dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, ben, il y a des Nancy Audet et d'autres qui sortent en disant « Hey, savez-vous quoi? J'ai sorti, puis ça m'a pris un maudit bon bout à sortir. J'ai travaillé fort, j'ai fait des erreurs. » Mais il y a un coût à ce système-là. Tu sais, un jour, à 25 ans, tu vas péter un plomb, puis là, ben, tu vas te ramasser à l'hôpital. Puis là, on va te donner un psychologue. Alors que si... tout de suite, très rapidement, étant enfant, on vous avait aidé puis donné un bagage d'outils qui ferait en sorte que vous pourriez peut-être continuer de croître dans ce monde qui est un peu fou puis essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. De savoir qu'il vous aidait pas à cette époque-là, je trouve ça juste hallucinant. Puis de savoir que ça semble pas s'être amélioré, c'est encore pire.
Au contraire, Il y a encore, tu sais, il y a tellement pas de services en ce moment, c'est fou, là. Puis moi, je le dis souvent, moi, je suis pas une personne alarmiste dans la vie. Moi, je suis une personne très positive. Mais de voir l'état actuel du système, je vous le dis, en tant que société, on va tous payer le prix de notre désengagement envers ces enfants-là. La commission Laurent, quand on lit le rapport final de la commission Laurent, oui, les recommandations, le rapport fait quand même 500 pages, puis j'ai passé à travers. Puis le coût de la maltraitance au Québec en ce moment, c'est 4 milliards de dollars par année. Derrière ce coût-là qui est immense, là, moi, je pense à toutes les vies humaines qu'on perd. Parce que il y en a beaucoup qui à 18 ans, n'y arrivent pas. Puis qui ne vont pas arriver à s'en sortir. Leur vie va être impactée, hein? Il va avoir un impact sur leur vie pour toujours. Puis en tant que société, comme je te dis, on paye tous le prix de ça. C'est des gens qui, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est juste qu'on les a pas aidés. On leur a pas donné les outils pour devenir des adultes qui sont capables d'avoir une vie épanouie. Puis c'est triste. Puis oui, ça se passe en amont, t'as raison. Ça se passe en amont, ça se passe dès la petite enfance, en prévention. Pour réussir à briser le cycle de violence, ce cycle-là intergénérationnel qui se répète souvent plusieurs générations. Tu sais, la maltraitance, je l'ai dit souvent, c'est une urgence de santé publique. Tu sais, le Québec fout de ses enfants, là, je pense que là, faut arrêter de dire ça, là. La vérité, c'est que si on était un Québec fout de ses enfants, bien, ça ferait longtemps qu'on aurait reconnu que la maltraitance, c'est une urgence de santé publique. On a un problème de maltraitance au Québec. Il y a eu plus de 141 000 signalements cette année à la DPJ. Pouvez-vous imaginer? 380 enfants par jour. C'est énorme.
C'est
8 gros autobus ouais. jaunes par jour. Là. On a plus de signalements pour maltraitance au Québec qu'on a de naissance. Donc, on a besoin d'une stratégie nationale pour aller agir en amont. Puis ça se passe à travers la direction de la santé publique. Parce que la stratégie qu'on habite à Québec, qu'on habite à Baie-Comeau, qu'on habite en Abitibi, la stratégie n'est pas la même. Hein? Ça ne touche pas les mêmes familles, ce n'est pas les mêmes réalités. Il faut avoir des mesures en amont qui sont adaptées aux besoins de chaque communauté, chaque région. Mais il y a une inaction, là. Une inaction de ce côté-là qui, moi, me... C'est une incompréhension ouais. pour moi.
Je vais te poser une question. J'ai comme un peu peur de la réponse, honnêtement. Là, mais tu as été à la DPJ, tu as été abandonné par ta mère, Nancy Audet, à la DPJ. Ils t'ont placé rapidement dans une famille d'accueil. Tu as réussi à te sortir de ça. Tu as fait carrière dans les médias. Tu es une excellente communicatrice. Tu as vu neiger. Il y a plein de gens qui se confient à toi. Est-ce qu'un jour, des hauts fonctionnaires de la DPJ ont dit « Hey, Nancy Audet, on pourrait peut-être lui jaser, savoir qu'est-ce qu'elle aurait à dire. Est-ce que tu as déjà rencontré ces gens-là pour leur dire « Bien, voici ce que moi j'ai constaté quand j'étais petite. Voici la réalité d'aujourd'hui. Voici comment moi je vois les choses avec certains spécialistes que j'ai consultés. Pourriez-vous mettre des choses en place? » Est-ce qu'ils t'ont parlé, la DPJ?
Bien, moi, on m'avait demandé d'aller témoigner à la commission Laurent. Puis à l'époque, j'étais journaliste à TVA. Je ne voulais pas y aller. Je trouvais que c'était trop confrontant pour moi de que les gens entendent mon histoire. C'était difficile pour moi. J'ai toujours été une fille très discrète. Je partageais très rarement sur ma vie privée. Mais ils m'ont dit que c'était essentiel que je vienne témoigner. Il y avait besoin de m'entendre. Il avait envie d'entendre mon histoire, mais d'entendre aussi mes suggestions. Puis après une longue période de réflexion, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains puis d'aller témoigner avec le plus d'authenticité possible puis de faire confiance à ces gens-là. À cette commission-là qui a coûté 12 millions de dollars aux Québécois, je me suis mise à nu. Je me suis mise en danger personnellement. Là. Je me suis mise vraiment en danger. Pour mon équilibre à moi, là, que j'avais mis tellement de temps à bâtir. Puis, j'y ai cru, tu sais. Puis finalement, 4 ans plus tard, je veux dire, la commission Laurent, en ce moment, c'est un rapport qui est sur des tablettes. ces 65 recommandations qui n'ont pas été mises en place. Celles qui ont été mises en place, c'est au compte-gouttes. Les recommandations ont été diluées. Même la commissaire au bien-être et aux droits des enfants, qui était la recommandation phare de la commission Laurent, c'était la numéro un, là. On devait lui donner des pouvoirs pour qu'elle puisse réellement changer les choses pour les enfants vulnérables du Québec, pour les enfants de la DPJ. Et le gouvernement, la CAQ, a décidé de ne pas lui donner aucun pouvoir. C'était la recommandation numéro un. Fait qu'aujourd'hui, on a une nouvelle commissaire avec un organigramme incroyable, mais qui n'a pas de dents et qui n'a aucun pouvoir. Pourquoi chaque fois qu'on a la chance de vraiment changer les choses, le lobbying prend le dessus? On ne prend pas les bonnes décisions. On a une commissaire, elle est là, elle est rentrée en poste, là, mais elle n'a pas de pouvoir. Okay, je suis allée encore là. On m'a demandé d'aller à la commission sur ce projet de loi-là. On m'a demandé d'écrire un mémoire. Comme vous puis tout le monde qui nous écoute, moi, j'ai un emploi, là, je travaille fort. Là.
Ouais.
J'ai une famille, mais j'ai pris un mois à écrire un mémoire. Je l'ai pensé. J'ai consulté des avocats. J'ai travaillé comme une folle. Puis quand je suis allée présenter mon mémoire pour leur expliquer pourquoi il fallait donner des pouvoirs à la commissaire, comme il était entendu dans le projet de loi, là, comme il était entendu à la commission Laurent, bien, on m'a dit que non, on n'allait pas aller dans cette direction-là pour aucune raison en plus. On n'avait aucune raison à me donner, aucune justification. Tout ça, une question d'argent, de lobbying. On ne veut pas donner cet argent-là. On va le donner à quelqu'un d'autre. C'est parce que ces pouvoirs-là sont détenus en ce moment par la Commission des droits de la jeunesse, par la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, mais communément appelée la CDPDJ. Mais c'est un organisme, ça fait des années qu'on le dit, ne joue pas son rôle de protection auprès des enfants. Il n'utilise pas du tout les pouvoirs qui lui sont conférés pour défendre les enfants, pour toutes sortes de raisons. Elles ont l'enveloppe financière, mais elles ne jouent pas leur rôle. C'est pour ça que les commissaires avaient dit on va transférer les pouvoirs à la nouvelle commissaire. Elle va les utiliser, ces pouvoirs-là, puis elle va amener des changements durables au Québec. On ne l'a pas fait. Donc, tu sais, puis toutes les fois où j'ai rencontré des gens de la direction de la protection de la jeunesse, ça a été toujours mes rencontres les plus difficiles. C'est des rencontres où on est toujours très dur avec moi. Il n'y a aucune écoute, aucune écoute. Il y a un manque de respect qui est vraiment difficile à comprendre. On est toujours dans c'est faux. Tout ce que tu dis, c'est faux. C'est pas vrai. Je vois, mais il y a 4000 personnes qui sont venues témoigner à la commission Laurent et qui ont raconté exactement ça. 4000 personnes. Comment vous pouvez continuer à dire que c'est faux?
Ben, ils font
je
partie.
Ne comprends pas.
Ils font partie du système et le système se protège.
Il y a une rigidité. Là.
Ah, oui.
Tu ne peux pas imaginer. On a donné un pouvoir immense à la DPJ. On lui a donné un pouvoir quasiment... C'est une erreur. De lui avoir donné ces pouvoirs-là, c'est une erreur majeure. Parce que les pouvoirs ne sont pas utilisés de la bonne façon pour protéger les enfants. Qu'on tourne ça de toutes les façons qu'on veut, ça ne fonctionne pas. Il va falloir des changements en profondeur de cette organisation-là. Il va falloir non seulement soit lui retirer des pouvoirs, ou encore... ajouter des balises à cette forme de pouvoir-là. T'sais, on parle souvent d'imputabilité. Il n'y a aucune imputabilité. Il n'y en a pas. T'sais, partout, là, toi, tu es imputable. Les avocats le sont. Les médecins le sont. T'sais, je veux dire, on est tous imputables. Là. Comment ça que cette organisation-là, ces gens-là qui sont responsables de protéger les enfants les plus vulnérables de notre société ne sont pas imputables d'aucune façon? Voyons, ils protègent ce qu'on a de plus précieux puis ce qu'on a de plus vulnérable. Puis ils sont pas imputables. Pour moi, là, ça, c'est un des plus graves problèmes qu'on a au niveau de cette institution-là. Mais bon, ça fait des années que je le dis, là, Mais
ça va peut-être,
je ne sais pas si j'ai un.
Ça va peut-être changer un jour. On va se le souhaiter. Nancy Audet.
Je l'espère. Je l'espère pour les enfants.
J'ai vu un article dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. On parlait d'une demande d'action collective contre la DPJ. C'est la DPJ du Québec au complet qui serait impliquée. C'est une demande d'action collective qui vient d'être déposée. Et la demande déposée devant la Cour supérieure réclame 50 millions de dollars collectivement et 100 000 dollars par femme concernée. Et on dit qu'il y a des mères qui se sont vues retirer la garde de leur bébé directement après avoir donné naissance parce qu'elles faisaient l'objet d'une alerte bébé à naître et ces femmes-là pourraient être indemnisées. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens pour dire « quand il y a quelqu'un de flagué, on enlève le bébé sans plus ample vérification? »
C'est d'une violence inouïe. Quand je vous parle de pouvoir, là, c'est des gens qui prennent le téléphone, sont capables d'appeler à l'hôpital puis de dire à une infirmière puis à une équipe médicale, la femme accouche, là, puis dans l'heure qui suit, là, tu y enlèves son bébé. C'est fou quand même comme pouvoir. Là. Pensez-y. Il n'y a pas de spécialiste en psychologie là-dedans. Là. Il n'y a pas de psychiatre, là. Il n'y a pas de psychologue. Là. Je veux dire, c'est des intervenants là, qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de... Puis, je veux dire, dans les dernières années, c'est pas un secret qu'il y a une perte d'expertise majeure en plus, une perte d'expérience. Il y a des gens qui sont pas formés, qui prennent des décisions qui sont graves. Il y a une détérioration de l'encadrement des familles, de l'encadrement des enfants. C'est troublant ce qui se passe. Je suis triste pour ces familles-là. Je suis triste pour les enfants aussi. Il y a eu beaucoup d'abus. Je dis pas que les parents là ne méritent pas un encadrement serré. Je dis pas qu'il y a pas des parents inadéquats qui ont besoin d'être encadrés, à qui on doit donner des outils. Mais de la façon que ça se fait en ce moment, c'est inacceptable. C'est ce que des centaines de mamans ont vécu.
Ouais.
Puis il y a beaucoup de mamans là-dedans que c'est des anciennes femmes comme moi qui sont passées par la DPJ. Ça m'attriste énormément.
Ça veut dire que vos noms sont...
C'est illégal.
Mais vos noms sont fichés. Illégal. Vos noms sont fichés quelque part. Là. C'est clair et net.
On va vous dire que non. Évidemment.
En 2022, il y a une dame qui est tombée enceinte. Elle a eu recours à un programme d'aide alimentaire qui était offert aux personnes qui étaient enceintes et qui avaient un faible revenu. Ça s'appelle le programme OLO. Et le jour de son accouchement, on parle pas d'une personne violente, là. On parle d'une personne qui était pas riche puis qui avait de la difficulté puis qui a demandé de l'aide pour nourrir son enfant. Le jour de son accouchement, le personnel de l'hôpital a contacté la DPJ pour l'aviser de la naissance imminente de l'enfant et la femme a finalement quitté l'hôpital sans son enfant alors qu'il était placé dans une famille d'accueil. La jeune mère avait fait l'objet d'une alerte bébé à naître et dans la demande d'action collective, on peut lire « Les alertes bébé à naître sont émises sur la base de simples préoccupations sans qu'une enquête raisonnable ne soit conduite et sont souvent animées par des préjugés discriminatoires comme la pauvreté à l'endroit des personnes enceintes visées. »
Imaginez, au lieu de dire « Hey, on va venir t'aider. On va t'aider à te nourrir puis à nourrir ton enfant. S'il faut, on va te permettre de participer à des ateliers pour te donner des outils. » pour devenir une meilleure maman. Au lieu de ça, on t'arrache ton bébé. C'est épouvantable. J'en ai croisé des jeunes mamans qui avaient tellement d'amour pour leur bébé, puis tout ce dont elles avaient besoin, c'est de soutien. Puis, tu sais, aujourd'hui, au Québec, là, la dernière étude qui est sortie, là, c'est que 25 % des familles québécoises qui ont des enfants en bas âge de 0 à 5 ans ont de la difficulté à nourrir et à combler les besoins de base de leurs enfants. 25 %. On peut-tu se poser des questions? Et au lieu là, de leur frapper sur la tête puis de leur faire payer le prix encore plus grand de leur pauvreté puis de leur détresse, on peut-tu leur venir en aide au lieu de les écraser encore plus? Tu sais, où est-ce qu'on l'a perdu, notre humanité, en cours de route? Quand qu'on l'a perdu? Je ne le sais pas. Mais un enfant, là, Puis ça, puis je ne parle pas des enfants aussi qui, tu sais, qu'on vient chercher, qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on crée une blessure là, d'attachement immense chez ces enfants-là. On ne veut pas donner d'aide. Je suis allée, moi, je vais tout le temps m'en rappeler, je suis allée en chambre de la jeunesse, puis il y a une maman qui venait témoigner en avant, puis elle expliquait au juge qu'elle avait des troubles sévères de sommeil, des troubles anxieux, qu'elle traversait une période très difficile, puis vu qu'elle ne dormait pas, elle n'arrivait pas à se lever le matin pour aller mener son enfant à l'école. Fait qu'elle avait eu une alerte de l'école, un signalement, parce que l'enfant allait à l'école 2 jours par semaine, des fois 3. Puis on était inquiets pour cet enfant-là. Lui aussi est venu témoigner. Et j'ai vu tout l'amour de cette mère-là pour l'enfant, pour son enfant. Puis son enfant aussi, de la façon qu'il la regardait. C'est un petit bonhomme qui avait 9-10 ans. Tu voyais qu'il y avait de l'amour entre les deux. Elle était juste en difficulté. Puis ce qu'elle venait nous dire, c'est qu'elle avait besoin d'aide. Bien, vous savez ce qu'on a fait? On lui a retiré son enfant. Puis on l'a placé en famille d'accueil. Quand elle, tout ce qu'elle venait nous dire, c'est « Je vais pas bien. J'ai besoin d'aide. On peut-tu mettre des choses en place pour me permettre de retrouver la santé puis que mon enfant puisse continuer à aller à l'école? » C'est ça. Moi, je pense que si on avait investi sur cette mère-là, puis on lui avait offert des services, bien, peut-être qu'après 6 mois, 8 mois, parce qu'elle avait aussi évidemment besoin d'un suivi médical, cette mère-là, ce qu'on n'a pas au Québec actuellement, tu sais. Mais je pense que l'enfant aurait pu demeurer chez sa mère. C'était pas une mère inadéquate, mais des cas comme ça, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. C'est qu'on n'a plus de services en amont pour aider les parents qui sont en difficulté. Fait qu'on fait juste leur enlever leur enfant. Mais on crée plein d'autres blessures après. On prend.
Exact.
Parce que pour un enfant, on a oublié c'est quoi la valeur d'avoir une famille, l'importance d'avoir une famille. C'est important. C'est là qu'on se forme en tant qu'être humain. Hein. C'est précieux, une famille. Là.
Ouais.
C'est... Moi, j'ai eu la chance de trouver une famille d'adoption. Mais cette famille-là, c'est sans cette famille-là, je ne suis pas là aujourd'hui. Moi, je ne suis même pas sûre que je t'en vis. T'sais? Il n'y en a pas de Nancy Audet. Il n'y a pas de Nancy Audet journaliste, encore moins si je n'avais pas trouvé cette famille-là d'adoption. Fait que le rêve pour moi, c'est qu'on puisse comprendre que faut que ces enfants-là ont le droit d'avoir une famille, que ce soit une famille biologique ou on décide si vraiment il y a des parents qui ne sont pas disponibles, parce que ça aussi, ça arrive. Là, on en a là, des enfants qui n'en ont pas et qui n'en auront jamais de famille. Il faut leur trouver une stabilité, il faut leur trouver une famille de remplacement, mais il y a de la stabilité. Quand tu changes 22 fois de milieu de vie là, entre toi et moi, là, j'en connais des jeunes là, qui ont eu 22 milieux de vie différents dans leur petite vie. Là.
Ouais.
Fait que, tu sais, c'est pas ça aussi.
Je veux passer au... On a des petites difficultés au niveau de l'Internet en raison de la température, mais je veux passer au prochain sujet. Nancy Audet, t'es toujours là? Nancy, est-ce que tu m'entends encore?
Oui, je t'entends.
Bon, OK. Je veux passer au prochain sujet, mais juste avant, j'ai une question à te poser, puis si tu ne veux pas répondre, tu me le dis, c'est pas plus gênant que ça, on passe à d'autres choses. Est-ce que tu as fait la paix avec ton passé? Est-ce que tu as tenté de retrouver tes parents pour leur jaser, tes parents biologiques, pour leur dire « Voici ce que vous avez fait, je vous pardonne, mais j'oublierai jamais. » Est-ce que tu as eu ce réflexe-là?
Ouais. Oui, bien, c'est un travail de longue haleine. Tu sais, c'est, je le dis souvent, quand je suis devenue journaliste, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une stabilité puis de pouvoir me payer plusieurs thérapies. J'aurais probablement un beau gros char de luxe devant la maison si je n'avais pas eu autant de thérapies. Tu sais, c'est des thérapies qui durent 3 ans, 4 ans chaque semaine. Là. Ça demande un investissement financier, mais un investissement de temps accepté aussi. Accepter là, de travailler très, très fort sur soi, c'est épuisant aussi à la longue, c'est dur, puis de ne pas arriver toujours au résultat que tu veux. Mais dans ce processus-là de guérison, il y a eu cette tentative-là de renouer avec mes parents. Aujourd'hui, je peux le dire, j'ai une très belle relation avec mon père biologique, Clément, qui m'a appuyée sans relâche depuis 5 ans. Qui m'a appuyé tout le long de l'écriture de ma biographie, qui m'a rappelé des souvenirs qui étaient douloureux pour lui, qui est rempli, lui, est rempli de regrets, hein, de honte aussi par rapport à ce qui s'est passé, du fait qu'il n'a pas pu me protéger. c'est dur d'aller dans ces zones-là. Il a accepté d'y aller, puis on a complètement reconstruit notre relation. Là où ça ne peut pas se reconstruire, c'est quand il y a un refus d'admettre ce qui s'est passé. Hein, quand on dit à un enfant, ben, oh, c'est dans ta tête, c'était pas si pire que ça. Puis un refus d'admettre, tu sais, les violences, c'est dur ça pour quelqu'un qui a subi de la maltraitance. Donc moi, mon père, il a accepté de faire ce chemin-là avec moi. Puis ça fait qu'aujourd'hui, on a une magnifique relation. Ça fait en sorte qu'on peut aller en vacances 2 semaines aux îles de la Madeleine, passer des beaux moments ensemble. Ça fait en sorte qu'il peut être le grand-papa de ma fille, un grand-papa aimant. On a une relation harmonieuse, puis ça, ça vaut tout l'or du monde. Pour moi, c'est une grande réussite, ça. De l'autre côté, j'ai décidé de couper les ponts complètement avec ma mère biologique. J'ai pris cette décision-là qui n'est pas difficile, qui n'est pas facile. C'est probablement une des décisions les plus difficiles que j'ai prises dans ma vie. Mais quand une relation toxique continue à te tirer constamment par le bas, quand c'est une relation qui te fait souffrir, qui t'empêche d'avancer. Il faut un jour s'aimer assez, se respecter assez pour dire « Je prends la décision par amour pour moi de couper cette relation-là. » Et c'est ce que j'ai fait et c'était la bonne décision pour moi. À partir du moment où j'ai pris cette décision-là, j'ai commencé à aller beaucoup mieux. J'ai fait le deuil de cette relation-là. Ceci étant dit, moi, j'ai pardonné. Le pardon, c'est un processus que l'on fait pour soi-même. On ne le fait pas pour l'autre. C'est personnel à nous, ça. Pardonner, ce n'est pas oublier. Mais pardonner, pour moi, ça voulait dire ne plus vivre dans la colère, ne plus vivre dans la rancune, ne plus me lever le matin les poings serrés. Mais surtout, ça voulait dire être en paix dans mon cœur pour pouvoir être une meilleure mère pour mon enfant. C'est ça que je voulais accomplir en pardonnant. Je ne voulais pas jamais que ma fille vive à travers ma colère puis ma rancune. T'sais. Je voulais qu'elle ait une maman qui était bien dans son cœur, bien dans sa peau. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas des petites rechutes une fois de temps en temps. Je suis un être humain. Mais je les comprends, mes rechutes aujourd'hui, puis je suis plus douce envers moi-même quand ça m'arrive. Ce qu'on appelle les « triggers », là. Quand la petite Nancy prend le dessus, des fois, là,
ouais.
la petite Nancy là, qui a été abandonnée, puis qui a été, bon, il y a des situations qui se présentent dans ma vie où je réagis très vivement. Puis après ça, je suis là, pourquoi tu es comme ça? Tabarouette, tu sais, de façon vraiment intense. Puis là, je fais, ah, c'est la petite Nancy abandonnée qui répond à la situation aujourd'hui. Fait que là, je dis, c'est beau, garde, calme-toi, ma petite, là. C'est correct, c'est la grande Nancy qui va prendre la relève puis qui va gérer la situation avec plus de maturité, tu sais. Fait que les blessures sont là, là. Faut juste apprendre à mieux les gérer. Mais c'est tout un travail, hein. Tu sais, il y a bien des gens, je les vois réagir à des situations de façon sec, là. Puis, tu sais, c'est la crise, puis les cris, puis tout ça. Je le vois, moi, le déclencheur de ça. Mais même eux, ils savent même pas qu'il y a un déclencheur. Ils savent pas que ça existe. Il y a personne qui leur expliquer ça, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des soins, d'être accompagnés de gens qui leur expliquent ça. Puis ça, peu importe ce qu'on a vécu dans l'enfance, on en a tous. Hein,
by the way, là, je veux dire, ben oui.
on peut avoir été aimés, mais on a tous des blessures dans l'enfance qui n'ont pas été guéries, qui viennent nous jouer des tours dans notre vie adulte. Là. On aurait tous un travail à faire de ce côté-là, de toute façon, peu importe notre vécu puis notre enfance. Je ne suis pas gênée de répondre à cette question-là.
Mais merci de l'avoir fait. D'ailleurs, je pense que ça va aider énormément de gens à Montréal comme à Québec, ainsi que les gens qui vont te réécouter en podcast. On va faire une courte pause. Il nous reste quelques minutes à l'émission dans le podcast de Marceau Soir. Ce soir, mon invité, j'en suis très fier. Ça fait longtemps que j'en ai entendu parler. C'est la mère de mes enfants qui m'a parlé de Nancy O'Day, qui m'a dit « Tu dois recevoir cette femme-là qui est merveilleuse. » Puis effectivement, elle est merveilleuse, Nancy O'Day, journaliste, auteure, conférencière et cofondatrice de l'organisme Équipe Jeunesse. D'ailleurs, c'est de cet organisme-là qu'on va parler tout de suite après la pause. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Boulevard, c'est des idées, des voix, des rendez-vous.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Boulevard 102.1. Réécoutez avec des images le Pit Stop, l'Open Mic et le Caucus. Découvrez nos podcasts originaux, sans oublier nos grandes entrevues et nos moments forts. Du contenu qui informe, qui questionne, qui fait réagir.
Si on veut ramener des familles dans le Vieux-Québec, c'est quoi la stratégie si on n'a pas les éléments de base?
Tout ça sur la belle petite chaîne YouTube de Boulevard 102.1.
Ce sont les derniers jours pour vous inscrire au défi sportif de votre hiver avec le pentathlon des neiges Sun Life. Du 14 au 22 février, venez profiter de l'hiver sur les plaines d'Abraham en bougeant, en vous dépassant et en partageant l'énergie de milliers de participants. Course, ski, vélo, patin ou raquette, il y a un défi à votre rythme, que vous soyez débutant ou athlète aguerri. Du 14 au 22 février, ça va bouger avec Boulevard 102.1 et le pentathlon des neiges Sun Life. Inscription avant le 2 février au pentathlondesneiges.com.
Courbatures, stress, blessures ou objectifs à atteindre, chez Kinatex Sport Physio, il y a un professionnel pour vous. Une approche humaine et des services adaptés à votre réalité. Chez Kinatex, votre vie active, on en prend soin. Pour continuer à bouger sans compromis, visitez kinatex.com.
Automobile en direct est maintenant ouvert à Québec au 2400 avenue Dalton. Viens découvrir le plus grand choix de véhicules d'occasion au Québec. Passe nous voir en semaine de 9h à 21h ou le samedi et dimanche de 10h à 17h. Automobile en direct, ton auto, on l'a direct.
Le Boisé Bel Air continue de s'agrandir. Découvrez maintenant ses nouvelles unités. Du loft au 5,5, lumineuse avec balcon intime, gym et stationnement intérieur en option. L'unité modèle est ouverte 7 jours. Le Boisé Bel Air, entre ville et nature. rfimmobilier.com.
Commencez à rêver à l'été avec Piscine LMJ, spécialisée en construction de piscines en béton armé sur mesure. Creusée, semi-creusée, hors terre, spa, Piscine LMJ s'adapte à tout type de terrain, finition durable. Service clé en main de la conception à l'installation. Venez nous voir au Salon Expo Habitat.
Vous êtes propriétaire d'immeubles? Confiez la gestion de vos bâtiments à MSI Gestion Immobilière. Depuis 25 ans, nous offrons un service clé en main pour tous les types d'immeubles locatifs. Chez MSI, c'est cogné à la bonne porte. MS Immobilier avec un S.com.
Laissez Bouffe et compagnie s'occuper du souper. Repas savoureux prêt en quelques minutes et renouvelé chaque semaine. Fini les casse-têtes. Bouffe et compagnie s'occupe de tout. Bouffe et compagnie, authentique et gourmand depuis plus de 10 ans. Bouffe-ci.com.
Envie de reprendre de saines habitudes? C'est le temps d'essayer Mon Club Avantage. Tennis, gym, spinning, workout, yoga, badminton et bientôt du pickleball.
Au Club Avantage Multisport, on a votre santé à cœur depuis 46 ans. Clubavantage.ca.
Cette semaine, à la Disco Glace, venez patiner et profiter de l'ambiance festive sur la glace. Vendredi, on célèbre le décompte officiel d'un an jour pour jour avant les Jeux du Canada 2027 avec une chansonnière sur place. Et samedi, place à une soirée DJ. Glissez toute la semaine et fêtez avec nous. On vous attend.
Le 29 janvier dès 18h30, le cégep de la Pocatière t'invite à ses portes ouvertes. 15 programmes à découvrir. Audioprothèse et génie physique à la Pocatière, acupuncture et régie et technique scénique à Montmagny. Viens explorer, t'inspirer et créer ton futur. Dans les Etchemins, on a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'hiver. Des sentiers de rando et de motoneige, des endroits pour glisser, des microbrasseries pour vous réchauffer et une tonne d'activités gratuites pour décrocher à petit prix. tourismeetchemins.qc.ca.
Vivez la culture en plein cœur de Lévis, à deux pas du traversier. Espace DCL, c'est plus de 100 spectacles à l'Anglicane et des expositions au Centre Louise Carrier. Des découvertes pour tous les goûts tout au long de l'année. Détails et programmation sur espacedcl.ca.
Jusqu'au 31 janvier chez Lunetterie Bélan, recevez 50$ de rabais à l'achat de deux paires de lunettes complètes avec lentilles simple vision et recevez 100$ de rabais à l'achat de deux paires de lunettes complètes avec lentilles progressives. Lunetteriebélan.com. Marie-France opticienne.
Mettre du ruban adhésif pour limiter une craque dans un pare-brise, c'est pas vraiment la solution parfaite. Passez donc chez Desharnais. Pour le service, les pare-brises, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait.
OK, Léo, refais-moi la gamme au complet.
Oh non, ça me tente pas.
Hey, ah ouais, c'est ton examen demain. Tu l'as presque, mon grand. C'est juste la fin que tu manques. Refais-le comme ça. Do, ré, mi, fa, sol, la, mercado.
Vous méritez de vous gâter. En ce moment, obtenez un après-midi de glissade d'une valeur de 174 à 87 au glissade Tewksbury et d'une nuitée en yourte d'une valeur de 320 à 200 chez Camp Portneuf.
Mercado.fm. Vous méritez de vous gâter.
Tanguay l'entrepôt, c'est des trouvailles à très bas prix. Comme nos magnifiques meubles en surplus d'inventaire offerts jusqu'à 70 % de rabais.
Tous ces meubles sont en trop?
Oui.
Sont ben trop beaux?
Trop pas cher à part de ça.
C'est ben trop vrai. J'achète.
Vendu! Tanguay l'entrepôt, ça vaut trop le coup.
Propriétaire d'une maison avec une fosse septique? Faites confiance à Sanivac. Notre équipe vide et entretient les fosses septiques dans ta région avec un service fiable, rapide et professionnel depuis 1961. Sanivac s'occupe de tout, ta vidange et même le rappel pour votre prochain entretien dans 2 ans. Service d'urgence 24/7 et réservation dans la même semaine. Pour un service simple, propre et efficace, choisis Sanivac, une entreprise familiale d'ici au service de vos fosses septiques depuis 65 ans. Choisis Sanivac.
Davy, le plus grand chantier naval du Canada, recrute. 500 postes à combler dès maintenant. Soudeurs, constructeurs navals, assembleurs mécaniques, tuyauteurs et plombiers sont recherchés. Avec des projets jusqu'en 2040 et des conditions solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule au davyrecrute.ca.
Lisez les instructions sur l'étiquette.
Les aliments gras, l'alcool et l'excès de sucre peuvent tous exercer une pression sur votre foie, entraînant une baisse d'énergie, un sommeil agité et une augmentation du tour de taille. Aidez votre foie à rester en bonne santé et à nettoyer votre corps avec Active Liver de New Nordic. Disponible en comprimé ou en gélifié, les ingrédients d'Active Liver, comme les extraits de chardon-marie et de curcuma, sont reconnus pour favoriser la santé du foie. Disponible chez Pharmaprix, Jean Coutu ou en ligne sur Amazon et newnordic.ca.
Allô, c'est Marie de l'Entrepôt de la Réno. Une salle de bain complète pour moins de 2 000 $ chez nous, c'est possible. Passez vous inspirer de notre nouveau showroom avec nos salles de bain modèles. 9030 John Simon, sortie Chauveau sur Henri IV. Entrepôtdelaréno.com.
Forte de 20 ans d'expérience, la Clinique de phlébologie de Québec étend maintenant ses services à Saint-Romuald, près des Ponts. Bénéficiez de l'expertise de notre équipe pour une évaluation médicale complète, qu'il s'agisse de solutions chirurgicales, médicales ou esthétiques. Pour des jambes en santé, visitez ven.ca.
Découvrez le tout nouveau Tiguan 2026 chez Desjardins Volkswagen. Nouvelle génération, design repensé, puissance accrue et confort haut de gamme. Nous sommes une des seules concessions du Québec à avoir tous les modèles en inventaire pour livraison immédiate. Desjardins Volkswagen, performance, prestige et plaisir de conduire.
Boulevard 102.1, 100% parlé en semaine, avec les meilleures émissions d'actualité à Québec. Leclerc Communication, le radiodiffuseur numéro 1 à Québec. Marceau, le soir, la meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Mon invité de ce soir, c'est Nancy Audet, les journalistes, auteurs, conférencières et cofondatrices de l'organisme Équipe Jeunesse. On a quelques difficultés avec Internet ce soir parce qu'il y a de la température un peu particulière. Donc, les réseaux Internet ont de la misère. Il est où Elon Musk quand on en a de besoin? Nancy, hein?
Pas là, en tout cas.
Pas là. Parle-moi de l'organisme Équipe Jeunesse, qui est ton dernier bébé là, que tu as cofondé en 2025. Pourquoi tu as pensé à cofonder cet organisme-là?
Ça fait des années que je m'implique auprès des enfants puis des jeunes de la DPJ, des ex-placés aussi. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait que c'était des jeunes qui étaient laissés à eux-mêmes. Il manque de services. Au Québec, pour ces jeunes-là, c'est épouvantable ce qu'ils vivent. Sur les 2000 jeunes qui quittent le système chaque année, il y en a 600 qui se retrouvent à la rue en situation d'itinérance. Ce sont des jeunes qui, la plupart, vivent une grande solitude. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de réseau. Ils n'ont pas d'éducation non plus. Il y a seulement 17 % des jeunes qui quittent le système avec un diplôme d'études secondaires. C'est 85 % dans la population. Donc, non seulement ils n'ont pas de famille, ils sont laissés à eux-mêmes, mais ils sont loin de pouvoir être autonomes. On leur demande, en fait, l'impossible. Parce que vous le savez, aujourd'hui, en 2026, on a plein de jeunes adultes qui habitent à la maison avec leurs parents. Ils ont 21, 22, 23 ans. Puis les parents me disent qu'ils ne sont pas capables de voler de leurs propres ailes. Avec l'inflation, ils ne sont pas capables de se payer d'appartement. Ils n'ont pas le niveau d'autonomie qu'il faut. Puis nous, on a des jeunes de 18 ans qui n'ont pas eu de famille, qui ont subi de 10, 15 déplacements des fois dans leur vie. qui ont vécu tellement de difficultés, puis à 18 ans, on les met dehors, puis on leur dit ben, bonne chance, tu vas être capable de t'organiser tout seul. Tu sais. Fait qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent à la rue en situation de précarité, qui n'arrivent pas à manger à leur faim, qui n'arrivent pas à s'habiller. Ils n'ont même pas de titre de transport pour se déplacer, par exemple, pour aller passer des entrevues. Fait que j'ai décidé de mettre au monde Équipe Jeunesse pour aller aider ces jeunes-là. Je sens qu'on doit venir en renfort. C'est des jeunes qui veulent réussir. Ils veulent contribuer à la société. C'est pas vrai qu'ils veulent pas. Ils veulent être comme tous les jeunes. Ils veulent travailler. Ils veulent retourner à l'école. Ils veulent faire quelque chose de leur vie. Mais ils sont tellement démunis. Sont tellement laissés à eux-mêmes. Donc, je travaille fort en ce moment pour mettre ça sur les rails, pour aller aider les jeunes partout au Québec. On a fait une grande collecte cette année à Québec, notamment à Trois-Rivières, à Montréal, à Laval, à Varennes aussi. Puis il y a plein de jeunes qui sont venus nous voir, là, autant à Québec qu'à Trois-Rivières. Puis le message qu'on nous dit, c'est une chance que vous êtes là, que vous êtes là, on a besoin de vous. Merci d'être là. Puis moi, mon but, c'est d'être présente pour eux 12 mois par année. Puis de mettre en action, puis de faire partie de la solution. Parce qu'on peut aller critiquer comme on veut dans les médias, puis je l'ai fait beaucoup dans les dernières années, puis je me suis insurgée beaucoup, mais à un moment donné, s'insurger, c'est plus assez. Il faut passer à l'action. Puis c'est ça qui me permet de garder de l'espoir, c'est en passant à l'action. Parce que sinon, ça fait longtemps que sinon je vais baisser les bras, tu sais. Donc, c'est d'agir de façon concrète pour aller aider ces jeunes.
Équipe Jeunesse, ça s'écrit avec un K. Vous êtes facilement trouvable sur Internet. Et je regardais une statistique qui est disponible sur votre site Web. Sur 2000 jeunes qui quittent la DPJ chaque année, Nancy, il y a 33 % de ces jeunes-là, donc 666 jeunes qui se retrouvent en situation d'itinérance sur 2000. C'est épouvantable, cette statistique-là.
On envoie nos enfants à la rue. Puis on envoie nos enfants les plus vulnérables à la rue. C'est pour ça que je vous dis, un Québec fou de ses enfants, mais vraiment, est-ce qu'on est vraiment fou de nos enfants? Si on était si fou de nos enfants, on ne les enverrait pas comme ça à la rue, avec tout ce que ça veut dire pour eux. Parce que c'est dur à la rue, là. À 18 ans, se retrouver dehors, là, puis dormir sur un banc de parc, dormir dans une bouche de métro, ou dans une tente cachée dans un petit boisé parce que c'est trop dangereux au centre-ville pour eux, ils vont se cacher parce qu'ils se font voler, ils se font battre, ils se font agresser. Comment, puis en plus de se demander s'ils vont réussir à manger, moi, j'ai retrouvé des ex-placés là, à la rue, ils étaient méconnaissables, là. Il y avait la peau puis les os. Là. Ils faisaient des semaines qu'ils n'avaient pas mangé à leur faim. Puis c'est des bons jeunes, là. C'est des jeunes que je connais, c'est des jeunes qui sont intelligents, qui ont plein de potentiel, mais qui sont tellement démunis. Je me dis, je ne peux pas croire qu'on leur fait vivre ça. Puis, tu sais, tu me dis 33 %, mais il faut savoir que cette étude-là, c'est une étude qui date d'il y a 2 ans. On a suivi plusieurs cohortes de jeunes qui sortaient. C'est une étude de grande envergure, là. Mm-hmm. Je veux dire, c'est le chercheur Martin Goyette qui a fait cette étude-là, qui est spécialisé dans le parcours de ces jeunes. Et puis, quand il a livré ces données-là, c'était il y a 2 ans. Et moi, je peux vous dire que depuis 2 ans, la situation s'est détériorée de façon épouvantable. La preuve, c'est que cette année, hein, on a refusé plus de 6000 demandes d'hébergement dans les auberges du cœur à travers le Québec. On a dit non à 6000 jeunes. Chaque soir, en ce moment, au refuge des jeunes à Montréal, on renvoie à la rue 10 à 12 jeunes. Et on me dit qu'il y a des jeunes qui rentrent, puis on n'est même pas capable de leur offrir un petit matelas à terre. Et on le voit là, que le jeune, là, il est démuni, il est vulnérable. On ne sait pas ce qu'il va aller vivre à la rue. Mais malgré ça, on n'a plus de place. On ne sait plus où les mettre. Donc, ce n'est pas sérieux, là. Ça suffit, là.
Ouais.
Donc, à Équipe Jeunesse, on est en train de mettre un cadre qui est vraiment... un plan d'action qui est solide, je pense, j'y crois vraiment. L'ADN d'Équipe Jeunesse, ça va être aider de façon directe et concrète les jeunes. Tous les dons qu'on a reçus durant la grande collecte qui a eu lieu le 5 décembre, on a reçu 12 500 dons. Tous les dons ont été distribués en intégralité aux jeunes. 100% des dons. Que ce soit un don matériel ou un don de carte cadeau, tout a été distribué directement aux jeunes vulnérables. C'est ça qui est beau. Moi, pour avoir collaboré dans plein d'organisations dans le passé puis de fondations, je voyais que malheureusement, l'aide ne se rend pas aux jeunes sur le terrain. L'ADN d'Équipe Jeunesse, ça va être que l'aide que vous allez nous donner, les dons que vous allez nous donner, vont se rendre directement aux jeunes qui en ont besoin.
Merci de travailler autant à réparer les jeunes qui ont été un peu brisés par des parents qui n'étaient peut-être pas assez responsables. C'est toujours un plaisir de t'entendre. C'est la première fois que je te rencontrais. Tu es une bonne personne. Puis un gros merci à la mère de mes enfants de m'avoir conseillé de te jaser ce soir. Tu es très sympathique. Si on veut avoir accès à tes conférences, parce que tu es conférencière, Équipe Jeunesse, on l'a dit, Équipe Jeunesse avec un K. Mais toi, si on veut avoir accès à tes conférences, qu'est-ce qu'on fait pour te rejoindre?
On vient sur mon site internet nancyaudet.ca, il y a toutes les informations.